Allô?
Pardon? Je sais pas. Joey, l'accueil, vous avez pas eu vos notes de cours, les amis? C'est un scandale. Je sais pas quoi vous dire. Je sais pas si on voit habituellement André les donne à l'accueil et l'accueil les apporte ici et vous les distribue. Salut tout le monde. Salut tout le monde là-bas. Écoute, avec le spot des fois. Ah, c'est Jean-Pierre. Donc, aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent. Là, ça fait, on est rendu au chapitre 11. Donc, techniquement, ça fait 11 semaines, même 12, parce que j'ai fait une semaine d'introduction. Donc, ça fait 12 semaines qu'on en parle. À un moment donné, il faut arrêter d'en parler, puis il faut le faire. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va se faire un atelier pratique sur la prière. Bon, à moins que ça ne vous tente pas, mais si ça ne vous tente pas de prier, je dirais, Houston, on a un problème. Pas sûr qu'on va arriver sur la terre. Vous comprenez ce que je veux dire? Avant de continuer, il faut que j'aille chercher ma petite bouteille d'eau. Ça ne sera pas très long. Donc, ah, ici. Donc, je vais être obligé de vous faire violence, les amis. Et tous ceux qui sont un peu loin, laissez vos effets personnels sur votre chaise. Vous allez pouvoir la récupérer après. Je sais qu'on est des petits amis d'habitude. On aime ça avoir toujours notre petite routine. Mais pour ce matin, il faut vraiment qu'on soit, je dirais, 1, 2, 3, 4, 5. Je veux que tout le monde soit proche parce que sinon, on ne s'entendra pas. Comme Mme Paradis le dit si souvent, on les entend pas. Donc, approchez-vous. Oui, oui. Laissez vos affaires là. Faites-vous-en pas, on ne vous volera pas vos places. On est d'une église, il n'y a pas de voleurs ici. Donc, vous aussi là-bas, sinon vous allez manquer le meilleur. Oui, il y en a, mais c'est pas des chrétiens. Un chrétien ne vole pas. Ah, ouais, c'est ça. On connaît tous la théorie. Et c'est un peu comme ça avec la prière. On connaît tous la théorie. Après 12 chapitres... Vous avez remarqué que ça commence à être pas mal tout le temps la même chose. Fait que, il est temps de passer un peu à une autre étape dans notre vie de prière. Fait que, évidemment, il va y avoir des blocs de partage et des blocs de prière. On va le faire d'une façon un peu spéciale. Ça ne sera pas comme les mercredis soirs où on prie ensemble et que là, il y a des blocs pour l'intercession et tout ça. On va aller dans exactement ce que le chapitre 11 nous enseigne. Avez-vous lu le chapitre 11? Ou cri, 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 cri. Ben, le chapitre 11 parle de rencontrer Dieu dans la prière et le thème, c'est découvrir sa face. Donc, l'importance de la rencontre avec Dieu. Et bon, ça répond un peu à la question que je vais vous poser, mais quand vous priez, qu'est-ce que vous cherchez? C'est quoi ça vous apporte, la prière?
La paix?
Cool! Communion avec papa? Qu'est-ce que ça vous apporte, la prière? La quoi? La confidence? Et qu'est-ce que vous cherchez dans la prière? C'est quoi qui vous attire le plus, oui? Dépendance, la volonté. La volonté de Dieu, ouais, c'est bon. Il n'y a pas de mauvaise réponse comme telle. Pardon, la reconnaissance. C'est important de réaliser à quoi sert la prière. Si Dieu sait déjà ce qu'on a besoin avant même qu'on lui demande, hein? Si même il nous encourage à ne pas multiplier les paroles quand on le prie, autrement dit, garder ça simple, qu'est-ce qu'on fait quand on prie? On parle avec Dieu. Ouais, écoute, ici, on a quelqu'un qui voit une petite étoile. On parle avec Dieu. L'idée, c'est de chercher Dieu. Et c'est ce qui est le plus difficile dans la prière. C'est de chercher la face de Dieu. C'est vraiment ce qui est le plus difficile. Prier pour nos amis, prier pour nos difficultés, intercéder pour que Dieu vienne nous porter secours, ça va, hein? On n'a pas trop de misère à aboutir là-dessus. Même lire la Bible, là, ça peut être mécanique. Bon, on peut lire 3 chapitres par jour, tu lis ta Bible en 1 an. Donc, bon, ben, Genèse 1, 2, 3, voilà. 4, 5, 6, voilà, jour 2. On peut faire ça très mécaniquement, mais chercher la face de l'Éternel, ça, c'est dur. Pourquoi? C'est quoi la difficulté dans l'exercice de chercher sa face?
Pardon?
Les distractions. Ça, c'est une première vraie affaire. Beaucoup de distractions. Okay, niveau distraction, qu'est-ce qui vous distrait le plus? Nos pensées, oui, ça part. Hein? Ça part dans tous les sens. Si tu pries avec ton téléphone, c'est dur de rester concentré longtemps. Surtout si les notifications sont à « on ». Oui, ouais. La chair et l'esprit sont opposés entre elles, et c'est pas parce qu'on a le Saint-Esprit dans notre cœur que tout maintenant est un jardin de roses et on est unanime avec Jésus. Il y a toujours un combat. Donc, juste de prendre la décision de chercher la face de l'Éternel, c'est contre notre nature. Fait que c'est déjà un autre combat. Fait que les distractions, on pourrait dire comme le monde, hein, tous nos soucis viennent toujours... faire de la distorsion, notre chair qui vient toujours mettre des bâtons dans les roues, qui nous amène des fois dans le découragement, oh, on n'y arrivera jamais, comme si c'était une performance de chercher la face de Dieu. As-tu d'autres défis quand on cherche la face de Dieu? Pourquoi c'est difficile de chercher la face de Dieu? Oh! Oh! Ça, c'est intéressant ce que tu dis là. J'ai remarqué que, je ne sais pas si c'est général, là, je ne connais pas assez de gens dans le monde baptiste, là, mais je sais qu'une chose, dans ma vie de prière, je n'ai pas vraiment de misère à rester en silence et ça peut être long. Là. Et si je prie en allant prendre une marche dans le bois, ça peut être juste, on dit contemplatif, là. Et je me souviens qu'à plusieurs reprises, pour faire une réponse moyenne courte là, à ce que tu dis, à plusieurs reprises, on me le... C'était comme un reproche un peu. Ou quelque chose de... Je sais pas, un peu bizarre. Oh, on sait bien, toi, t'es un contemplatif, là, tu sais, parce que... Bon. Fait que le silence, ça peut être menaçant. Ça peut être dérangeant. C'est dur d'arrêter devant l'Éternel, garder le silence. Pourtant, la Bible dit qu'il est bon de rester en silence devant Dieu. Il y a un passage qui dit ça textuellement. Donc, c'est dur avec nos pensées. J'ai un plan, mais je veux vraiment aller dans ce que vous avez besoin pour chercher la face de Dieu. Je ne dis pas qu'on va la trouver aujourd'hui. Je dis juste que... C'est un cheminement. Hier, qui était là hier? Ah ben, coudonc, on est devant des convertis. C'est drôle parce que depuis 2 mois, les passages qu'on me donne pour que je prêche, puis là, ben, c'était 2 Chroniques 20, ça va toujours autour de ça. Chercher la face de Dieu, chercher la face de Dieu. Et oui, c'est une quête. C'est là qu'il y a un... Moi, le mot paradoxe, là, c'est comme un... Il y a comme 2 extrêmes. D'un côté, où est Dieu? Quand on est chrétien, là, il est où?
Il est dans notre cœur.
Il est dans notre cœur. Il est là. Il est à l'endroit le... Jésus! Jésus! Il est à l'endroit le plus intime qu'on peut avoir. C'est l'endroit... que personne n'a accès dans notre cœur. Écoutez, là, il y a des choses qui se passent là-dedans là, que personne ne sait. Et on a des réactions que même nous, on n'arrive pas à comprendre. Et c'est pour dire comment le niveau d'intimité que Dieu s'est donné quand on s'est converti est incroyablement grand. Mais de l'autre côté, c'est tout un défi de trouver sa face. Fait que c'est là le paradoxe. D'un côté, il ne peut pas être plus proche que ça. De l'autre côté, c'est un grand défi. Ça, moi, la conclusion que j'en tire, c'est de voir à quel point la chair est, je ne dis pas puissante, parce que quand on est chrétien, Dieu a brisé la puissance du péché, mais la présence est toujours là, et là, les distractions, ça devient dur de garder le silence devant Dieu, ça, les inquiétudes et tout ça. Puis en plus, on fuit là, à cause de la chair. La chair et l'esprit ont des désirs opposés, que la Bible nous dit. Ben, elle nous le dit, mais on finit par le savoir et le reconnaître, puis on finit par le comprendre. Donc, on est des bébites de paradoxe, qu'on est pris entre deux extrêmes, mais c'est bon de savoir que Dieu est tout proche. Il est tout proche. Fait que dans notre quête, on doit commencer à bonne place. C'est-à-dire, là où il est, c'est très, on dit, immanent, là. Il est transcendant comme s'il était au loin, tu sais, mais là, nous, on est ailleurs. C'est qui disait ça hier? Je pense que c'est Alex. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, Dieu était transcendant. Il était le Dieu là, qui était à l'extérieur. Mais dans le Nouveau Testament, il est à l'intérieur. Notre louange vient de l'intérieur parce que là, on a Dieu en nous. Là. Le Saint-Esprit a fait sa maison. Donc, la quête, la recherche de la face de Dieu commence en nous. Mais c'est une quête et je vous le dis tout de suite, là, pas de panique, on ne l'aboutira jamais. Dans le sens qu'on n'arrivera jamais à connaître Dieu parfaitement. Pensez-vous que quand on va être au ciel, on va connaître Dieu parfaitement? À le connaître, on va-tu finir par le connaître? Qu'est-ce que ça veut dire connaître? Quand on va commencer avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire connaître Dieu? Savoir qui il est? Tout savoir de lui. Est-ce qu'on peut arriver à tout savoir de lui? Et là, c'est une autre chose quand on cherche la face de Dieu. C'est de faire une espèce de deuil sur l'idée qu'on peut comprendre Dieu dans son entièreté et le connaître dans son entièreté. Oui, l'éternité, mais quand Dieu nous a créés, c'était pas pour qu'on le comprenne, puis c'était pas pour qu'on puisse tout savoir de lui. Quand Dieu nous a créés, c'était pour être son reflet, c'était pour avoir une relation parfaite avec lui, se délecter uniquement en lui, être satisfait uniquement en lui. Mais pas nécessairement de le connaître là, entièrement. Il est Dieu. Hein? Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Et même glorifié, ça va être la même chose. Dans l'idée de, c'est pas si important que ça, de tout savoir de Dieu. Ce qui est important, c'est de savoir que Dieu sait tout de nous. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il est atteignable. Il est là, il se révèle à ceux qui le cherchent sincèrement, ceux qui cherchent de tout leur cœur, ceux qui veulent vraiment là, avoir cette relation-là avec lui. Puis la façon que Dieu se révèle, j'imagine qu'il y en a plusieurs qui se fait des années, qui courent après Dieu, qui cherchent sa face, qui ont une relation avec lui. Bien, vous avez certainement dû remarquer que Dieu se révèle d'une façon très douce. Très, très douce. Comme Élie dans sa caverne, où là, les vents passent, puis ça brasse, puis tout le monde a un petit vent doux. Et c'était là que Dieu était. Dieu est dans une grande douceur. Il nous fait grandir de plus en plus dans sa connaissance. Fait qu'on va aller dans, je ne sais pas si vous avez vos Bibles ou vos téléphones, ou peu importe, c'est Éphésiens chapitre 3, versets 14 et puis 16 à 19. Il y a trois requêtes qui sont là, puis on va successivement prier. On va prier ensemble, tu sais, mettons, je sais pas moi, 5-6 personnes là, qui vont prier avec leurs mots. C'est trois requêtes ultra importantes qui peuvent changer et révolutionner une vie. Et plus ces requêtes-là, vous pouvez être convaincu que Dieu va y répondre. Tu sais, quand on dit, quand on demande quelque chose en son nom, croyez que vous l'avez reçu et Dieu va vous l'accorder. Évidemment, là, on ne parle pas des derniers gadgets ou un dernier ordinateur ou je ne sais pas trop. Mais quand on demande ces choses-là, vous pouvez être certain que Jésus va répondre. Parce que vous pouvez être certain que Jésus demanderait la même chose. Vous pouvez, avec assurance, dire « Au nom de Jésus, je te demande ça. » Et avec vraiment cette certitude de la foi, là, que Jésus, s'il était à ta place, il demanderait exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment encourageant, non? Ça commence par « Je me mets à genoux devant le Père et je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi, enraciné et solidement fondé dans l'amour. Vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître et vous serez ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. » C'est quelque chose, hein? Pour moi, c'est une des prières les plus incroyables, fantastiques de la Bible, de dire, « Wow, OK, on peut demander ça. On peut aller jusque-là dans nos prières. » Donc, première requête, ce que je demande à Dieu pour vous, et là, on va se le demander pour nous, c'est qu'il nous accorde à la mesure de sa glorieuse richesse. Bon, si on fait juste une pause, là, c'est quoi la mesure de sa glorieuse richesse? Est-ce que ça se calcule en dollars, en euros? Comment on calcule la mesure de sa glorieuse richesse? Ou plutôt, qu'est-ce que Paul essaie de nous dire, là? Sa création, la mesure de sa glorieuse richesse, c'est pour dire à quel point, un, que c'est précieux. Hein? La richesse de Dieu, dans le fond, l'apôtre Paul essaie de prendre une image très humaine, là, de dire, même si j'avais toutes les richesses du monde, je ne serais pas nécessairement heureux. Mais là, ici, il dit, vas-y à la mesure de toute la glorieuse richesse que Dieu a. Et lui, la richesse que Dieu a, c'est beaucoup dans son amour. C'est beaucoup dans sa miséricorde, c'est beaucoup dans sa bienveillance, dans son pardon. Hein? Juste Jésus sur la croix, on s'en va vers Pâques, là, nous expose la mesure de sa richesse. Comment lui, il s'exprime quand il veut aimer? Tu sais, des fois, on fait des cadeaux, là, mais lui, Dieu, comment il s'exprime quand il veut aimer? Ben, il donne sa vie. C'est pas rien, hein? C'est dans le contexte, là. Donc, autrement dit, c'est infini. Tu sais, essaye pas de dire, OK, il va y avoir un plafond à un moment donné dans ce que je vais demander à Dieu. C'est infini. La mesure de sa richesse est infinie. Donc, qu'est-ce qu'on demande? Première chose, et là, c'est là qu'on va commencer l'exercice, être fortifié avec puissance par son esprit dans mon être intérieur. Être fortifié avec puissance par son esprit dans mon être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Non pas qu'il n'y habite pas, mais des fois, c'est une image. Comme quand il parle aux chrétiens de l'Odyssée, qui étaient des chrétiens de l'Odyssée, et qui dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Et c'est une image, là, parce qu'il est déjà dans le cœur, mais des fois... Hein, dans notre fameux paradoxe, là, on peut dire, OK, Dieu, cache-toi dans le placard, là, j'ai le goût de faire mes petites affaires. Je ne veux pas que tu vois ça. Mais la réalité, c'est qu'on peut attrister le Saint-Esprit. On peut l'éteindre d'une façon figurée, évidemment. Il est toujours là, mais c'est la douceur. Tu sais, comme avec Élie, la petite voix douce, là, Dieu est d'une grande douceur et souvent il va utiliser ce genre de faiblesse-là pour nous former, nous faire grandir. Et là, ben, peut-être qu'il faut juste revenir, Seigneur, je te sors du garde-robe et je veux que tu prennes le contrôle de toute la maison. Donc, on va prendre un moment pour juste cette requête-là. Là. On cherche la face de Dieu et c'est un exercice pour vous aider à la maison, dans votre temps avec Jésus, de dire, OK, je cherche la face de Dieu, je vais en faire une quête personnelle. Et là, on va commencer avec ça. Être habité par Christ, d'être fortifié avec puissance par son esprit dans mon être intérieur, que Christ habite dans mon cœur par la foi. On prend un moment de prière. Soyez pas timide. Là. Des fois, on est timide quand on est en groupe. Là. Personne ne va vous juger. Personne ne va... Oh, as-tu vu les mots qu'il a pris? Jamais de la vie. On parle à Dieu, là, notre papa. C'est bon? On prend le temps. Prions. Seigneur, on sait que tu vis à l'intérieur de nous. On est ton temple, tu as fait ta demeure dans notre cœur. Ta parole nous l'exprime ultra clairement. On ne peut pas passer à côté. Tu y es. Des fois, c'est difficile de discerner ta présence en nous. On te l'avoue humblement. On aimerait tellement que ce soit facile, mais en même temps, on pense beaucoup, on réfléchit beaucoup. On veut faire les choses à notre façon et on te remise des fois dans le cabanon en se disant, ben, on va faire les choses à notre façon. Puis toi, dans ta grande douceur, tu nous laisses faire jusqu'à temps qu'on soit assoiffé, qu'on soit dans une terre aride et desséchée, qu'on réalise que nos citernes sont percées. On te demande de te révéler dans notre cœur. On veut que tu sois à l'aise dans toutes les pièces de notre cœur, comme si c'était une petite maison, qu'il n'y ait pas des pièces ou des domaines de notre vie où on prend la décision de juste tasser, que ce soit nos ambitions, notre vie intime, nos paroles, nos blagues, toutes ces choses-là, nos loisirs, nos projets, nos pensées. On veut que tu... Le mot « dominer » n'est pas le bon mot. On ne veut pas que tu sois un dictateur de notre cœur. On veut que ce soit un amour profond qu'on a envers toi. On sait que tu nous aimes, mais on veut, Seigneur, que tu sois chez toi et on veut le faire par nous-mêmes. On veut te laisser entrer dans notre cœur. On veut avoir cette relation avec toi, parler avec toi face à face, comme Moïse le faisait, qu'on soit dans toute la dignité d'être appelé l'ami de Dieu, comme Abraham. On a plus qu'Abraham, on a plus que Moïse, on a plus que David, on a toi dans notre cœur. Aide-nous à le saisir. On sait que ça prend du temps. Aide-nous à fixer nos priorités pour passer du temps avec toi. Dans cette quête, des fois souvent silencieuse, et on déteste tellement le silence. Ah, Jésus, apprends-nous à prier. Apprends-nous à prier. Tes disciples te l'ont demandé. On te le demande aujourd'hui. Et on te le demande en ton nom, Jésus, comme si toi-même tu l'aurais demandé au Père. On a cette assurance que tu entends nos prières et que tu vas répondre. Amen. Amen. Être habité par Christ. La deuxième requête d'Éphésiens 3, c'est connaître son amour. Ça, c'est plus tricky. Parce que, en tout cas, nous, les évangéliques, les baptistes évangéliques, on en parle beaucoup de son amour. On en parle. Mais qu'est-ce que ça change vraiment dans notre vie? Tu sais, on s'est rendu presque des fois, j'ai un ami qui compose des chants, puis tout ça, et ça fait, c'est Thierry Ostrini là, qui était dans Exo. Et avec les années, il réalise que beaucoup de nos chants de louange sont, en fait, un patchwork de petites formules. Des petites formules qui reviennent toujours. Tu sais, ton amour infini, tu m'as aimé jusqu'à la croix. Puis... Fait que là, à un moment donné, on les dit, on les répète, mais comme n'importe quelle habitude, à un moment donné, on peut oublier. J'avais connu des couples qui, avec l'usure, ben, avec le temps, ils se sont littéralement perdus de vue. Pourtant, ils étaient toujours dans la même maison. Si on leur demandait individuellement, est-ce que vous vous aimez? Ils disaient, ben oui, on s'aime. Mais dans la réalité, ça paraissait pas tant que ça. C'était pas si clair que ça. Chacun faisait sa petite affaire de son bord et personne ne réalisait vraiment l'amour que l'autre avait pour l'autre. Et des fois, avec Jésus, c'est un peu ça qui se passe. Moi, je dirais triste. Mon ordi a éteint. Bon. Oui, c'est triste. Et c'est pour ça que dans la requête ici, Paul prend la peine de dire, premièrement, prenez conscience que Christ habite dans votre cœur. Il est là. Il est là et ça demande du temps. Vous savez qu'Éphèse est une église intéressante. Parce que ça a dû être écrit à peu près en 50, 55, là, je n'étais pas là. Mais vers 95 après Jésus-Christ, il y a une lettre que Jésus a écrite pour l'église d'Éphèse. Et c'est une super lettre. C'est une belle lettre. Et cette lettre-là nous dit que, bon, on peut aller la voir, là. Mon problème, c'est que je n'ai pas beaucoup de lumière ici, mais c'est correct, je vais le prendre avec mon téléphone. Oui? Oh non, non, tout est beau, ça, c'était juste qu'il s'est mis sur la veille, puis je ne veux pas assez tourner de page. Vous avez remarqué que je ne suis pas tellement le plan, là, matin?
J'y vais par cœur, c'est-à-dire, le cœur parle. On s'en va dans l'Apocalypse, vous m'entendez? Non? On s'en va dans l'Apocalypse. Le livre qui fait peur à tout le monde. L'Apocalypse. Quel beau livre. C'est le livre de la gloire. Le livre qui nous amène au ciel. On y arrive. Bon. Lettre à l'église d'Éphèse. Apocalypse, chapitre 2. Écoutez ça, là. Bon, je vais reprendre l'église.
Écoutez ça. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est Jésus qui parle. Il dit, imagine, là, lundi matin, le facteur passe, t'as une lettre, c'est signé Jésus. Non, mais je me dis, tu prends la peine de t'arrêter. Tu dis, OK, je pense qu'il y a quelque chose là-dedans, là. Voici ce que dit celui qui tient les sept étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d'or. À chaque fois qu'il fait sa présentation, Jésus, c'est qu'il lance en même temps une espèce de message par rapport à ce qu'il va lui dire. Et quand il dit les chandeliers, c'est des images pour les églises, parce qu'un chandelier, c'est supposé briller. Hmm? C'est ça l'idée. Fait qu'il dit, c'est moi qui marche au milieu des chandeliers. C'est moi. On va juste faire un petit rappel. C'est moi qui tiens les sept étoiles dans ma main droite. Ça veut dire les sources mêmes du salut. Fait que si j'existe, c'est grâce à toi. Là. C'est grâce à moi. Donc, je connais tes œuvres. Ça commence bien. Yeah. Ton travail. Yeah. Ta persévérance. Oh, yeah. OK. Il connaît tout ça. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. À date, tout va très bien. Moi, j'aimerais ça que Jésus me dise ça. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient apôtres sans l'être et tu les as trouvés menteurs. Des gens intègres, des gens justes, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas froid aux yeux, comme on dit. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendaient, oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom et tu ne t'es pas lassé. Résilient, jusqu'à souffrir. Vous savez qu'à cette époque-là, les persécutions, ce n'était pas une hausse d'impôts ou de tarifs douaniers. Les persécutions, c'était « tu meurs ». On rentre chez vous, tu es chrétien, tu meurs. C'était bête de même. Donc, tu as de la persévérance. Mais ce que j'ai contre toi, malgré toutes ces belles choses, malgré toutes ces choses qui sont « wow », quand même, hein, on pourrait dire « ben voilà, je suis une église accomplie, je suis un chrétien accompli ». Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Oups. Tu as abandonné ton premier amour. Comment ça peut arriver, abandonner son premier amour?
Manque d'entretien. Manque d'entretien.
Exactement. L'habitude, la routine. On dit la routine tue le couple. Mais là, c'est comme un couple à nous, Jésus. Là. C'est plus qu'un couple. Il fait un avec nous. Donc, la routine peut faire que l'amour, d'autres, peut-être de votre vécu, d'autres choses qui cassent l'amour, qui fait qu'à un moment donné, on oublie notre premier amour. L'habitude, on prend les choses pour acquis. Communication, ne plus communiquer, ça c'est excellent aussi. On ne se parle plus ou très peu. Prends les choses pour acquis. Donc, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Et là, c'est grave ce qu'il dit après à l'église d'Éphèse. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Rappelle-toi que tu es un pécheur. Hein? C'est pas toi, Dieu, c'est moi. Les projets, c'est pas toi, c'est moi. C'est un peu ça, là. L'église, c'est une église qui drive. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. qui était fondée sur l'amour. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Église va mourir. L'Église n'existera plus. J'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. C'est fou, hein? Comme pour une église, est-ce que Jésus a vraiment besoin d'une église qui a oublié son premier amour? Pas du tout. Dieu pourrait faire chanter des roches. Hein? Il l'a dit quand il est rentré dans Jérusalem. Hosanna, Hosanna, Dieu pourrait faire crier les roches s'il voulait. C'est un privilège qu'on a d'élever vers lui ses louanges. C'est un privilège qu'on a de découvrir son amour, son grand amour. Donc, quelque part, il y a une part qui nous revient là-dedans. On a un côté de notre côté. Lui, on peut dire qu'il a fait son bout. Côté amour, là, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Déjà qu'il nous appelle ses amis, c'est pas pire, tu sais. Parce que moi, personnellement, je ne me comporte pas toujours comme un ami avec Jésus. Mais il continue à m'appeler mon ami. Puis en plus, il est mort pour moi, son grand amour. Et c'est pour ça qu'ici, il dit, ben, d'un côté, prenez conscience qu'il habite dans votre cœur, mais en même temps, sur quoi vous devez mettre l'emphase et le focus, c'est sur son amour. Sur son amour. Et là, il parle de toutes les dimensions de son amour, là, la hauteur, la profondeur. Bon, il y en a qui ont parti dans toutes sortes d'interprétations. Qu'est-ce que ça veut dire, la hauteur? C'est pas tellement grave, c'est juste de dire l'infinie grandeur de son amour. Tu sais, il y en a à grignoter là, dans la réflexion là, pour une vie au complet. Fait que si tu penses que tu es déjà rendu, ben ça prouve quelque part qu'il y a peut-être un problème là, dans ta conception de l'amour de Dieu. Comment on peut, dans notre vie de prière, chercher toutes les dimensions de l'amour? Là, tu sais, enraciné et solidement fondé dans l'amour, vous serez ainsi à même de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour de Christ est long, large, élevé et profond. Comment dans notre vie de prière, on peut approfondir son amour pour nous?
Reconnaître ce qu'il a fait.
Oui, la parole est là. L'apôtre Jean est super pour ça. Hein? Il n'arrête pas de nous en parler de l'amour. Fait que quelque part, on part avec ce qu'on a. Oui, sa parole nous amène constamment. C'est le fun aussi, les fêtes. Pâques est une super fête d'amour. Hein, on parle du Vendredi Saint où Christ est mort pour nos péchés. Il y a quelque chose de vraiment triste, mais en même temps, il y a un petit côté joyeux dans le sens que, wow, son grand amour. Et puis là, ben, il ressuscite 3 jours plus tard. Là, c'est le party total. Comment aussi on peut découvrir son amour à travers la prière? En laissant parler à nos cœurs, le petit vent doux. OK, juste, on va dire, à partir de... Là, il est quelle heure? Là, 9h40. Ouh, ça va vite. Je pense que vous êtes élevé peut-être vers 7h le matin, à peu près, tout le monde. Hein, on peut dire, on va mettre une règle, mettons 7h. Donc, en 2 heures, qui ne fait aucun péché, ni dans sa tête, ni dans son attitude, ni dans « lever la main, qu'on rit ». Si on parle de 2 heures dans une vie, là. Hein? 2 heures dans une vie et on n'a même pas été capable d'être comme Jésus. C'est merveilleux. Ça nous expose son grand amour. Lui, il vient dedans. Il est voué venir chaque fois qu'on pêche, chaque fois qu'on pense croche, chaque fois qu'on a un mauvais motif. Il voit tout ça. Et pourtant, il nous aime. Ça, c'est incroyable, hein? Ben, c'est son amour. Fait que savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre un petit temps de prière. Et reconnaissance ou prière ou pardon, ce qui vous vient à l'esprit, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque dans la reconnaissance de son amour, mais un verset de Romains dit « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Et cet amour-là, c'est lui-même. Dieu est amour. Hein? C'est Jean qui le dit. Dieu est amour et cet amour-là est répandu. Le mot répandu, là, c'était un peu l'idée d'un fleuve qui prend toute la place. C'est comme un grand lac là, qui prend toute la place. Donc, c'est une réalité qu'on vit dans toutes ses dimensions. Il faut juste plonger dedans pour le vivre, mais il faut le savoir. On va prendre un temps de prière, soit de la reconnaissance, action de grâce. Contrition, on peut demander pardon. Prions. Prier un petit peu plus fort. Seigneur, aide-nous à saisir toute la grandeur de ton amour, qui semble si facile à comprendre du premier coup, parce qu'on le compare à nous-mêmes, mais qui est d'une profondeur et d'une puissance qu'on a besoin de comprendre que par toi. Aide-nous, émerveille-nous, aide-nous à le comprendre avec les yeux de notre cœur. Ouvre les yeux de notre cœur pour qu'on saisisse cet amour que tu as pour chacun de nous, pour l'humanité, pour le monde. Merci, Seigneur, de ta patience qui expose aussi ton amour, qui est une preuve de ton amour. Merci, merci que tu es là à l'intérieur, dans toute ta gloire et dans tout ton amour, prêt à briller au travers de chacun de nous dans l'amour. C'est merveilleux, mais on ne le comprend pas encore bien. On a besoin, Seigneur, de toi. Amen. Le passage dit, oui, quand on demande à Dieu de comprendre, il dit avec tous les saints, c'est-à-dire que ce n'est pas juste une initiative personnelle, mais c'est aussi une initiative d'Église, parce que c'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres que les gens vont savoir qu'on est des chrétiens. C'est là que ça va paraître que l'amour de Christ est dans notre cœur. Donc, il y a un côté très pratique là, ici. Combien l'amour est large, profond, oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce qu'on peut connaître. Donc, ce n'est pas non plus en prenant un cours sur la prière qu'on va y arriver. Ça va aider, on va comprendre certaines règles et principes, mais c'est en se mettant à genoux et en implorant notre Papa, en demandant à Jésus, le Saint-Esprit qui nous habite, de nous révéler cet amour-là, parce qu'il faut commencer par dire qu'on ne le comprend pas. Ça ne se passe pas dans notre tête, ça se passe dans notre cœur. Il faut que la tête soit remplie de la parole, bien sûr. Mais il y a un petit côté qu'à un moment donné, un gros côté, il y a une limite. Il y a une limite parce qu'il y a une connaissance spirituelle qui dépasse toute la connaissance qu'on peut avoir. Et le résultat, c'est la fin du passage. Et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Bon, est-ce que ça vous intéresse? C'est-tu quelque chose qui vous attire, ça? D'être rempli de toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que ça changerait dans votre vie d'être rempli de toute la plénitude de Dieu? Votre quotidien. Mettons, à partir de 7 heures à matin, là, tu te lèves à 7 heures le matin, tu es rempli de toute la plénitude de Dieu. Comment ça va se passer ta journée? Tu deviendrais un exemple des fruits de l'esprit.
Tout à fait.
Ah ouais? Autre chose? Il y a bien des choses que tu ne ferais pas. Et il y a peut-être d'autres choses qu'on ferait. Tu sais, comme quand dans Isaïe, il parle du jeûne, si tu vois un homme nu, couvre-le, ne te détourne pas de ton semblable. Tu sais, cet amour-là, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, toute ta force, toute ta pensée. Ça implique ma vie personnelle, mais quand Jésus dit l'autre commandement qui est son semblable, dans le sens que tu ne peux pas les enlever un et l'autre, c'est t'aimeras ton prochain comme toi-même, ah ben là, c'est autre chose. Hein, l'hospitalité, ça change ça de comprendre l'amour, de vivre, être rempli de toute la plénitude de Dieu. Et là, on ne parle pas de se fixer des règles. On ne se parle pas de fixer des règles, on parle d'un élan du cœur qui vient du Saint-Esprit qui nous habite. Ça, exactement, ça serait naturel. Pensez-vous que, humainement parlant, on peut y arriver? Est-ce qu'on a le potentiel? La compassion pour les autres, c'est clair. Vous savez qu'on a le potentiel. On a le potentiel. Le problème n'est pas dans le potentiel, il est dans le reste. Le problème n'est pas avec Dieu qui nous habite. Quand il dit l'amour de Christ est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, c'est clair. Mais à ce moment-là, le problème est de l'autre côté. Il n'est pas du côté de Dieu, il est de notre côté à nous. Vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu, sous-entend, et ce n'est pas dur à sous-entendre, on va être aussi vidé de nous-mêmes. Évidemment, c'est comme si tu remplis une salle d'eau. Tu sais, il y a eu des dégâts d'eau là, l'été passé, là. Mais quand tu remplis une salle d'eau, elle est pleine d'eau. Le reste, surtout s'il y a du courant. Oui, Tizi? Coupe déborde, là, ça.
Pardon?
Oui, le manteau, c'est exactement d'un nouveau mot grec qu'on a inventé hier. Mais exactement. Donc, si tu as le Saint-Esprit, tu as rencontré Jésus à un moment donné, tu as réalisé que tu es un pécheur. C'est ça la conversion, hein? Tu réalises que tu es un pécheur. C'est pas juste une question que tu ne pourras pas aller au ciel, c'est que tu vas avoir cette relation avec Dieu. Là. Et là, Christ fait sa maison dans ton cœur. Et ce qu'il va produire, où ça va pousser, ça va toujours être là, dans cette histoire de débordement. Christ habite dans mon cœur, par la foi, cette plénitude de Dieu, cet amour qui explose là, autour de nous. C'est le but. Et c'est ce qui procure la joie parfaite. C'est ce que Dieu veut. Il dit, vous demanderez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Mais on ne peut pas demander n'importe quoi. Il faut demander au nom de Jésus. Donc, qu'est-ce que Jésus demanderait? C'est ça l'idée. C'est pas juste de faire la petite formule à la fin. Ce n'est pas de la magie. On n'est pas à Poudlard. Au nom de Jésus, ta-da! Non. Confie-toi à Jésus. Laisse-le faire son travail en toi. Autrement dit, laisse-le faire sa job. Fait qu'on va prendre un dernier bloc de prière, il est presque 10 heures, et on va dans ce sens-là. Être rempli de toute la plénitude de Dieu, on va lui demander, peut-être même le supplier, et surtout, gênez-vous pas, pour qu'il prenne toute la place dans notre cœur. Prions. On veut que tu prennes toute la place dans notre cœur. C'est pas juste la place qui que tu as droit, mais c'est ce qui te revient. Quand on t'a donné notre vie, on te l'a donné. On te demande pardon. On confesse qu'on n'arrête pas d'en reprendre des bouts. Des fois, souvent, on pense qu'on est capable de le faire par nous-mêmes. Alors que toi-même, tu dis que sans toi, on ne peut rien faire. En fait, on ne peut même pas respirer sans toi. Jésus, merci pour ta grande patience. Merci pour ta bonté et ton amour. Aide-nous à le saisir. Aide-nous à vivre cette plénitude-là pour qu'on soit rempli de joie et qu'on goûte le ciel avant même de te voir. Qu'on soit le moins surpris possible de ce qu'il va avoir au ciel quand on va y arriver. Jésus, merci. Merci pour cette quête que tu nous donnes de chercher ta face à chaque jour, à chaque instant. Et on prie en toi, en Jésus. Amen. Amen. Ce matin, on a prié les Écritures. On a pris un passage de la Bible, on l'a médité, puis on l'a prié. C'était un des nombreux chemins pour trouver la face de Dieu, pour chercher la face de Dieu. Il y en a plein, plusieurs prières dans la Bible ou nos initiatives personnelles. Fait que c'était peut-être un moyen de se motiver, de se pousser à le faire à la maison, prendre le temps. Mais le plus dur, je trouve, c'est de prendre le temps. Tout le monde est bien occupé, mais ça vaut la peine. C'est bon? Question? Commentaire? Interjection? Bon, bien. Une petite demi-heure. Et ensuite, c'est notre culte d'adoration, là.